Bonjour et bienvenue, 14h TU, 15h ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, l'armée israélienne avait promis de répondre aux tirs de roquettes à partir du Liban. Elle annonce avoir frappé des lanceurs de roquettes ainsi qu'un centre de commandement du Hezbollah qui nie toute implication, à suivre dès le début du journal. En Turquie, nouvelle manifestation en vue ce soir. Arrêté mercredi, le maire d'Istanbul devrait être présenté au procureur et au tribunal d'Istanbul. Dans ce journal aussi, l'administration Trump met fin par ordonnance au statut légal de plus de 500 000 migrants latino-américains, des migrants qui n'ont quelques semaines pour quitter les États-Unis. Et en France, changement à la tête d'EDF, son prochain patron est l'actuel directeur de Framatome. Une réponse sévère au dernier tir de roquettes, c'est donc ce qu'avait promis l'armée israélienne. Elle est entrée en action aujourd'hui, annonçant avoir frappé des dizaines de lanceurs de roquettes, ainsi qu'un centre de commandement du Hezbollah dans le sud du Liban. Ce matin, 3 roquettes ont été tirées vers le nord de l'État hébreu sans faire de victimes. Le Hezbollah rejette toute implication, alors qu'à Beyrouth, le premier ministre libanais a mis en garde contre le risque d'une nouvelle guerre. Le point avec sur place Paul Ralifé.
Cette première violation du cessez-le-feu du côté libanais a provoqué une profonde inquiétude et suscité une vague de condamnation de la part des plus hauts dirigeants. Le Hezbollah, pointé du doigt par une partie de la classe politique, a nié dans un communiqué toute responsabilité dans les tirs de roquettes et réaffirmé son engagement à respecter la trêve. Malgré les violations quotidiennes de cette trêve par les Israéliens, les autorités libanaises refusent tout retour à l'option militaire et ont choisi la diplomatie comme seule voie pour régler les problèmes avec Israël. Le président libanais Joseph Aoun l'a encore rappelé ce samedi en dénonçant les tentatives de faire retomber le Liban dans la spirale de la violence. Le chef de l'État a déclaré que les événements qui se sont produits au sud du pays constituent une attaque contre le Liban et un coup porté à son projet de sauvetage sur lequel les Libanais se sont mis d'accord à l'unanimité. Même ton du côté du Premier ministre. Nawaf Salam a demandé au ministre de la Défense de prendre toutes les mesures sécuritaires et militaires nécessaires pour garantir que seul l'État a le pouvoir de décider de la guerre et de la paix. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
En Turquie, l'opposition a appelé à de nouvelles manifestations ce soir au terme d'une journée qui devrait permettre d'en savoir plus sur le sort judiciaire réservé au maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Interpellé mercredi matin à l'aube, l'édile de 53 ans est de nouveau entendu aujourd'hui pour cette fois soutien à une organisation terroriste. Il devrait ensuite être présenté au procureur général ainsi qu'au tribunal d'Istanbul. Depuis mercredi, des manifestations monstres se sont propagées dans la plupart des provinces turques, donnant lieu, selon les autorités, à près de 350 arrestations. Donald Trump avait promis de lancer la plus grande campagne d'expulsion de l'histoire des États-Unis. 2 mois après son retour à la Maison-Blanche, son administration annonce qu'elle met fin par ordonnance au statut légal de plus de 500 000 migrants latino-américains. Camille Salcedo-Ruiz, bonjour.
Bonjour.
Ces migrants, pourtant légaux, n'ont que quelques semaines pour quitter le pays.
Cubains, haïtiens, nicaraguayens et vénézuéliens, ils sont environ 532 000 concernés par cette décision. Ils étaient arrivés aux États-Unis dans le cadre d'un programme lancé en octobre 2022 et élargi en janvier 2023 par Joe Biden. Son but, permettre aux ressortissants des 4 pays d'entrer aux États-Unis pendant 2 ans pour freiner les passages illégaux à la frontière avec le Mexique. Mais remis aujourd'hui en cause donc par l'administration Trump, qui demande aux migrants parrainés par ce programme de quitter les États-Unis d'ici le 24 avril. Seule exception, l'obtention d'un autre statut d'immigration qui leur permettrait de rester dans le pays. Cette décision suscite l'inquiétude des défenseurs des droits des migrants, mais ne surprend pas, car c'était la promesse de Donald Trump, mener la plus grande campagne d'expulsion de l'histoire des États-Unis et limiter l'immigration principalement en provenance des pays d'Amérique latine. Son administration a récemment invoqué une loi de 1798 pour expulser plus de 200 membres présumés d'un gang vénézuélien vers le Salvador, une loi jusqu'ici utilisée seulement en temps de guerre.
Camille Salcedo-Ruiz, merci. J'ajoute que Donald Trump envisage aussi d'annuler le statut juridique de quelques 240 000 Ukrainiens qui ont fui la guerre pour s'exiler aux États-Unis. L'Ukraine, justement, un drone russe a tué hier soir tous les membres d'une famille dans le sud du pays, le père de 41 ans, sa femme de 38 ans et leur fille de 14 ans. Selon le gouverneur de la région, la Russie a lancé une attaque nocturne avec près de 180 drones. L'un s'est écrasé sur la maison de cette famille dans la ville de Zaporijjia. Le président Zelensky a lui rendu visite près de la ligne de front aux troupes qui défendent Pokrovsk, ville stratégique dans l'est de l'Ukraine que la Russie tente de reprendre depuis des mois. L'aéroport londonien Heathrow est à nouveau pleinement opérationnel, a fait savoir ce matin un porte-parole. L'aéroport a dû fermer hier en raison d'une panne d'électricité qui a perturbé le transport aérien et pas seulement au Royaume-Uni. Hier soir, la police de Londres et les pompiers ont indiqué qu'ils ne considéraient pas cet incendie comme suspect. En France, de nombreuses manifestations contre le racisme sont organisées ce samedi. Des centaines d'associations ainsi que des syndicats ont appelé à des rassemblements sur l'ensemble du territoire. La situation est grave, souligne la Ligue des droits de l'homme qui pointe une augmentation alarmante des actes racistes. De son côté, la défenseure des droits, Claire Hédon, rappelait hier que la plupart des discriminations avaient lieu dans la sphère professionnelle. On écoute à ce propos Julie Ferrua, co-déléguée générale du syndicat Solidaire. Il est urgent, selon elle, d'interpeller les salariés et les patrons à ce sujet.
Il y a vraiment une augmentation des propos et des actes racistes sur les lieux de travail. Ben, je vous prends un exemple. Moi, je suis infirmière et des propos racistes de la part de patients, c'est toujours arrivé. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on a vu arriver sur nos lieux de travail, c'est des propos de collègues, en fait. Il faut vraiment qu'on arrive à rappeler que le racisme, c'est un délit, c'est condamnable par la loi, et puis il y a des conséquences qui peuvent être dramatiques. Hein. Enfin, il y a des personnes qui meurent du racisme aujourd'hui. C'est aussi à l'employeur de se saisir de tout ça et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de racisme sur les lieux de travail. Et c'est pour ça qu'elle est hyper importante pour nous, cette campagne, parce que là, on voit qu'il y a l'ensemble des syndicats de salariés, et c'est aussi pour dire à l'ensemble des salariés de ce pays, oui, c'est super de contacter la défenseure des droits, mais on est aussi là pour le terrain, pour vous accompagner au quotidien, pour lutter contre le racisme, pour lutter contre les discriminations que vous subissez.
Julie Ferrua du syndicat Solidaire, propos recueillis par Arondel Rebecca. Ce 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. Près de la moitié des habitants de la planète subissent des pénuries au moins un mois dans l'année. En cause, une demande toujours aussi forte et une ressource toujours moins disponible, surtout en raison du dérèglement climatique. Confrontés à des pénuries régulières, de plus en plus de pays se tournent vers le dessalement pour produire de l'eau potable. Les pays du Golfe ou encore l'Espagne font partie des plus grands producteurs d'eau dessalée. Bientôt, un nouveau patron pour EDF, le géant français de l'énergie. À la tête de l'entreprise depuis novembre 2022, Luc Rémont a dû affronter des défis majeurs. La crise énergétique provoquée par la guerre Russie-Ukraine, mais aussi les problèmes de corrosion qui ont touché le parc nucléaire français. Luc Rémont affiche un bon bilan. La production est au plus haut depuis 5 ans. Les exportations ont battu un record, mais des divergences n'auront pas permis la reconduction de son mandat qui se termine cet été. Emmanuel Macron a prévu de le remplacer par le directeur général de Framatome, Bernard Fontana. Explication de Charlotte Cosset.
Un changement de direction dans un contexte bien particulier pour le secteur énergétique français. Le Premier ministre François Bayrou l'expliquait ce vendredi lors d'un déplacement dans une usine d'armement.
On est à un moment de basculement. On est devant des chantiers de centrales nucléaires nouvelles qui sont des chantiers très exigeants, qui coûtent très cher, sur lesquels il y a un certain nombre de difficultés qui se rencontrent. Et donc, on a de ce point de vue-là des débats.
Des débats, même des désaccords stratégiques, notamment sur le coût et le financement des 6 nouveaux réacteurs nucléaires. Une priorité pour les autorités françaises, insiste le Premier ministre.
Monsieur Fontana, qui va être le nouveau président d'EDF, c'est le patron de Framatome, c'est-à-dire ceux qui ont joué un rôle dans la filière nucléaire très important, c'est un industriel. Et donc le choix qui a été fait, c'est un choix pour projeter EDF vers l'avenir. C'est dans cette ambiance et dans ce climat que ce changement a lieu.
Autre sujet de désaccord majeur, les prix de l'électricité appliqués aux Français et aux entreprises. Avec la fin de la régulation des tarifs, EDF négocie les contrats avec les grandes entreprises énergivores, ces dernières actuellement mécontentes des tarifs proposés.
C'était Charlotte Cosset. Le pape François de retour en public demain dimanche. Le service de presse du Vatican annonce qu'il fera un salut ainsi qu'une bénédiction depuis une fenêtre de l'hôpital Gemelli de Rome. Ce sera sa première apparition publique depuis le 14 février. Enfin, en Formule 1, au programme ce week-end, le Grand Prix de Chine disputé à Shanghai. C'est l'Australie Oscar Piastri qui partira en pole position au volant de sa McLaren. Il s'élancera en première ligne devant le Britannique George Russell sur Mercedes. À suivre sur RFI, la marche du monde avec Valérie Nivelon. Très bonne journée. Il est pratiquement 15h10 ici à Paris.